Il est 8h30, l'heure d'accueillir un autre invité du jour, le claveciniste et chef des talents lyriques, Christophe Rousset, bonjour.
Bonjour, Clément.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique pour évoquer l'une des plus grandes figures du baroque français, le fondateur de l'opéra à la française, Jean-Baptiste Lully, qu'on célèbre aujourd'hui à l'occasion de la parution de cet article il y a 350 ans. Lully invente l'opéra français, c'est dans le magazine Ça m'intéresse Histoire, dans l'édition juillet-août 2019, un article signé Véronique Chalmet. Et on s'est dit que c'était la bonne idée de vous recevoir puisque vous avez un été justement centré autour de Lully, en particulier autour d'Isis que vous donnerez le 12 juillet, c'est-à-dire vendredi à 21h dans la cour des Hospices de Beaune au festival de Beaune. Qu'est-ce que ça raconte cette Isis et où est-ce que cet opéra se situe dans la carrière de Lully ?
Ben, Isis se situe dans la période vraiment médiane. Il a passé les premiers examens avec son Cadmus et Hermione qui était son coup d'essai, puis Atys, Thésée qui sont les opéras de la première période où on est plus sur du recital cantando, où on a vraiment du récitatif beaucoup et un petit peu moins de grands ensembles. Et puis plus ça va, plus il écrit en fait. Je pense qu'il prend plaisir à élaborer des grandes formes, des coups de théâtre. Isis, c'est vraiment un opéra qui raconte plein de choses. Donc c'est l'histoire effectivement de la nymphe Io qui séduit Jupiter au grand dam évidemment de Junon, qui fait tout pour se venger. Et donc c'est cette fameuse histoire qu'elle est changée en vache, qu'elle va être finalement changée en la déesse Isis que les Égyptiens vont vénérer. Donc il y a là-dedans plein de choses, parce que la transformation, on la voit pas directement, mais il y a effectivement plusieurs ambiances, et on lui fait subir surtout beaucoup de châtiments. Et ces châtiments donnent lieu à plein de choses très marrantes, et en particulier le fameux cœur des trembleurs qu'on connaît, sans l'avoir vraiment forcément beaucoup entendu, mais en tout cas, on sait que ça existe. Et puis il y a aussi la chaleur, il y a les forgerons qui mettent la forge en musique. Et nous, ce qui nous frappe quand on travaille cet opéra-là, c'est de voir combien la vision de l'enfer et la vision des châtiments est une vision qui est très très amusante en fait, qui est très divertissante et qui rappelle un petit peu, je sais pas moi, Jérôme Bosch par exemple, où on voit l'enfer avec des choses extrêmement drôles à regarder.
Des tortures dans tous les sens. Vous parliez du cœur des trembleurs. On le connaît peut-être parce que on l'a entendu chez Purcell dans le King Arthur. Est-ce que c'est le même alors ? Est-ce que Purcell s'est inspiré vraiment de Lully ?
Ah oui, c'est certain. Lully a une influence absolument colossale sur le monde musical de l'époque. Et donc Purcell évidemment succède à Lully. Hein. Il est beaucoup plus jeune et il connaît cet opéra et c'est certainement le cœur des trembleurs qui a donné lieu au génie du froid.
Voilà, génie du froid, dans le King Arthur. Alors c'est à Beaune que vous allez donner ce Lully. C'est d'ailleurs à Beaune que vous avez monté la plupart des opéras de Lully avec les talents lyriques.
Absolument, oui.
Ça c'est une fidélité qui remonte à de nombreuses années au Festival de Beaune.
Oui. J'ai dirigé à Beaune alors que j'étais pas encore, j'avais pas encore créé les talents lyriques. C'est vraiment une grande fidélité avec Kader et Anne, et je suis très très heureux à chaque fois de revenir aux hospices ou à la cathédrale selon le temps.
Vous en êtes à combien d'opéras de Lully là, avec les talents lyriques?
Ah, je les ai pas comptés, mais on a dépassé la moitié.
7, hein.
On a dépassé la moitié puisqu'il y en a 13 et que la suite ça viendra certainement puisque vraiment j'ai envie de les fréquenter tous. Comme je vous le disais, il a changé de style et à chaque fois, dans la mesure où c'est lui qui est le créateur de la tragédie lyrique en musique, il s'amuse à inventer d'autres choses, à inventer d'autres sets et à bouleverser les structures. C'est assez fascinant quand on pense à la date auxquelles elles ont été écrites, ces tragédies lyriques. Donc on est dans les années 1670-80. Regardez l'Europe musicale et dites-vous qu'est-ce qu'il y a en Europe à l'époque. Et Lully est vraiment très très au-dessus de la moyenne.
L'offerne gli resista, l'offerne gli resista. triste pas, il ramène Alceste vivante, que chacun chante, Alcide va garder très bas, l'enfer ne lui résiste pas, l'enfer ne lui résiste pas.
Alcide va garder très bas, l'enfer ne lui résiste pas, l'enfer.
Sacrète, rend mon âme inquiète et trouble mon amour. Alceste voit encore le jour, mais c'est pour un autre qu'admette.
Ainsi le temps que tu verras, l'enfer ne lui résiste pas, l'enfer.
Alceste dans ces lieux, ramène les plaisirs. Je dois rougir de ma faiblesse. Quelle honte à mon cœur de mêler de soupirs avec tant de cris d'allégresse.
Ainsi le temps que tu verras, l'enfer que tu résistes pas, l'enfer.
Un extrait d'Alceste de Lully, c'est à l'acte 5. Alcide est vainqueur du trépas, c'est Admet qui chante, ici incarné par Emiliano González Toro avec les talents lyriques sous votre direction, Christophe Rousset. Alors comment ça se passe? Comment Lully, il invente l'opéra à la française? C'est en s'opposant aux Italiens qui donnent naissance à l'opéra français?
C'est la volonté du roi Louis XIV, c'était l'opéra italien qui était le seul opéra en fait qui existait en Europe, et il s'agissait donc de montrer que la France était bien supérieure. Donc on crée les académies pour toutes les formes d'art, et les plasticiens sont censés s'opposer à l'Italie, et les musiciens aussi. Donc il s'agit de créer un art idiomatiquement français. Ce que fait Lully est très très habilement. Bon, il était italien d'origine, mais bon, il est arrivé en France, il avait 13 ans, il a été vraiment baigné dans ce qu'était le monde musical français. Il est d'ailleurs élève de grands organistes français, et l'orgue français était certainement un des grands fleurons du Paris musical du 17e. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit un petit peu tous les éléments qui étaient présents en France à l'époque. Le ballet, parce qu'on aimait beaucoup danser en France, et le ballet de cour était quelque chose de très très développé. Et c'est d'ailleurs par le ballet qui commencera à se faire connaître par Louis XIV. Il réunit aussi l'air de cour, qui était une chose très intime, qui était donc le petit air accompagné par un luth dans une ambiance domestique. Et puis la musique d'église, qui était les grands motets avec les grands chœurs, etc. Et ça, tout ça, ça existait.
Mais ça chantait déjà dans les ballets en plus. Il y avait des parties chantées, il y a des airs.
On faisait des petits intermèdes, mais c'était pas la chose la plus importante. Et en tout cas, l'intrigue était construite un petit peu de briquet de broc. C'était souvent extrêmement disparate. Il fait ses premières armes avec Lully, avec des comédies ballets. Mais c'est finalement en rencontrant Quino qu'il y aura une vraie rencontre et qu'on va créer cette fameuse tragédie lyrique. Et alors, il fédère tous ces éléments qui sont donc le ballet, l'air de cour, les airs de cour à une ou plusieurs voix d'ailleurs, le récitatif qui est un petit peu tiré de l'Italie, mais qui est traité à la française, il va écouter les tragédiens de l'hôtel de Bourgogne et noter les rythmes des tragédiens français. Et il crée donc ce fameux récitatif français qui est très très différent du récitatif italien.
Ça, qui est très proche de la langue parlée en fait.
Oui, parce que il change tout le temps le maître. C'est-à-dire on est en récitatif italien, on est en 4 et on est en do majeur tout le temps. Dans le récitatif français, on module, on est avec des maîtres qui peuvent changer, on passe du 3-4 au 4 temps, puis à un 2, puis à un C barré, puis à un 3-2, etc. Donc on est tout le temps en train de changer de maître de façon à coller le plus possible à la langue française et à ses rythmes très particuliers. On va mettre des accents rhétoriques là ou ailleurs, et donc il y a une science de la langue française qui est tout à fait étonnante chez Lully, et d'ailleurs son récitatif restera un exemple jusqu'à Rameau qui utilisera le monologue d'Armide comme exemple absolu du récitatif dans son traité d'harmonie.
Les Italiens, eux, allaient dans la vocalité absolue, dans le bel canto.
Oui, c'est-à-dire que on veut en France déclamer un texte avant même de chanter. Et donc, il se trouve qu'on chante, mais c'est avant tout une tragédie avant d'être un opéra. Et puis donc, il y a beaucoup de danse et il y a ces grands chœurs qui sont des structures absolument étonnantes. Là, on l'a entendu dans Alceste, mais dans tous les opéras, les grands chœurs sont des architectures qui sont totalement incroyables.
Autant d'éléments donc qu'on retrouve dans Isis, hein, que vous donnerez à Beaune, au Festival de Beaune, vendredi. On n'a pas donné la distribution tout à l'heure, je voudrais quand même le faire. Ce sera Eve Maud-Dubeau dans le rôle d'Isis. Il y aura aussi la voix de Cyril Ovitti, Edwin Crossley-Mercer, Emery Lefebvre, Philippe Estef, et puis une jeune chanteuse qu'on adore, la jeune mezzo Ambroisine Bray. Il y aura aussi Bénédicte Torrent et Fabien Yon avec les talents lyriques et le chœur de Namur. Un spectacle qui sera aussi repris à la fin de l'année au Théâtre des Champs-Élysées à Paris le 6 décembre et qui fera l'objet d'une parution discographique sous le label Aparté en décembre aussi. Ce fera une belle idée de cadeau de Noël. Vous parliez de cet art de la déclamation, on peut peut-être en donner un exemple en musique avec un extrait de Roland, de Lully, un extrait du grand monologue de Roland à la scène 2 de l'acte 4 « Ah, j'attendrai longtemps ».
Je suis encore, mais dans l'on est vainqueur.
elle m'aurait flatté d'une vaine espérance la grade. De ce point d'un soupçon qui offense mes armes vainqueurs. Non, je n'ai point encore entendu parler de Médor. Mon amour aurait lieu de prendre des alarmes si je trouvais ici le nom de l'intrépide fils des bons ou d'un autre guerrier célèbre par les armes. Mon chéri, tu n'as pas osé avouer de son cœur le véritable maître. Je puis aisément connaître qu'elle parle de moi sous un nom supposé. C'est pour moi seul qu'elle sourire. Elle me l'a trop dit et j'en suis trop certain. Lisons ces autres mots, ils sont d'une autre main. Qu'ai-je vu, ciel, il faut redire. Médor est heureux, Angélique a comblé ses voeux. Ce Médor, quel qu'il soit, se donne ici la gloire d'être le vainqueur d'un objet si charmant. Angélique a comblé les voeux d'un autre amant. Elle a pu me trahir. Oh, je ne le puis croire. Mon oncle convieux a voulu par ses mots noircir l'objet que j'aime.
Simplement sublime, hein, Christophe Rousset, ce qu'on écoute là, j'attendrai longtemps, le grand monologue de Roland au quatrième acte de cette tragédie lyrique du même nom de Jean-Baptiste Lully avec la voix de Nicolas Testé en Roland, les talents lyriques sous votre direction, c'était il y a 13 ans ce disque. C'est un bel exemple, hein, de on suit vraiment avec le texte et dans la déclamation, dans les rythmes, dans les intonations, on suit toutes les émotions de Roland qui est en train de découvrir qu'il s'est fait doubler en gros auprès d'Angélique par Médor.
Oui, c'est ça. Non, ce qui est magnifique, c'est d'entendre la façon dont il utilise l'orchestre comme un protagoniste de l'action. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très moderne. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait au fur et à mesure qu'il écrit. C'est-à-dire qu'on n'est pas, ça n'existe ni dans Attis, ni dans Thésée, ni dans Alceste. C'est vraiment dans les dernières tragédies. Et là, on est dans la dernière période. Ce qu'il fera aussi dans Armide, par exemple, où c'est très très écrit et où l'émotion du personnage est vraiment
porté par l'orchestre
et par les harmonies. C'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. Évidemment, c'est ce que les autres utiliseront après lui.
Alors vous faites partie, j'allais dire, des rares vrais défenseurs de Lully. Il y en a quelques-uns. Je dis ça parce que dans la planète baroque française, les gens préfèrent souvent Rameau. Les gens opposent souvent les deux et disent « Ah oui, Rameau, c'est génial, Lully, c'est un peu Redas, c'est toujours la même chose. » Comment ça se fait qu'il y a une espèce de... comme ça de...
C'est une querelle qui existe depuis bien longtemps. Sur Lully. C'est une querelle qui existe depuis bien longtemps, mais si vous voulez, ça reviendrait à dire « Je préfère Berlioz à Debussy. Oui. » C'est un peu ça. Hein.
Enfin, sauf qu'en attendant, Rameau est programmé tous les ans dans plein de maisons d'opéra. Lully, pas tellement. Hein.
Ben, c'est comme Debussy qui est beaucoup programmé et finalement pas les Troyens. Mais bon, ça c'est peut-être plus des histoires d'argent. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que ce sont pas du tout les mêmes esthétiques. On n'est pas du tout dans la même volonté d'exprimer les choses. Et d'ailleurs au 18e, à l'époque de Rameau, on a ressorti les tragédies de Lully et on les trouvait supérieures à celles de Rameau parce que il y avait un naturel et une simplicité du geste qu'on n'a jamais trouvé chez Rameau, qu'on trouvait trop alambiqué, trop plein d'harmonie, trop écrit du point de l'orchestre, etc. Et donc, on aimait au 18e encore cette grande simplicité, cette sincérité du geste. Et remarquez que dans Roland, justement, dans ce qu'on vient d'entendre, il y a quelque chose d'incroyablement poignant parce que le texte va directement à votre esprit, à votre cœur, à votre sensibilité. Et c'est ce qu'on s'échine à faire, en fait, sur toutes les tragédies lyriques, au talent lyrique. On essaye d'habiter le récitatif au plus près du texte, de façon à ce que les choses semblent absolument indispensable, inévitable, et ce qui est pas donné, ça demande beaucoup de travail, mais c'est ça aussi qui fait par exemple la grande supériorité de Monteverdi sur Cavalli par exemple.
Voilà, on va rappeler donc la date de ce nouvel opéra de Lully, Isis, donné vendredi à 21h dans la cour des Hospices de Beaune, en espérant que le beau temps soit au rendez-vous, mais a priori oui, avec vous Christophe Rousset et les talents lyriques. Je précise que France Musique sera à Beaune un petit peu plus tard dans le mois de juillet pour les Indes Galantes de Rameau justement et de Fairy Queen de Purcell les 26 et 27 juillet. Avant de se quitter, une dernière question très brièvement qu'on pose à tous nos invités de l'été. C'est quoi pour vous les vacances idéales, Christophe Rousset ?
Les vacances idéales, oh là, c'est probablement la solitude et le silence parce que j'ai trop de monde autour de moi et puis j'ai trop de musique dans la tête.
Alors on vous souhaite un bel été et puis un beau silence. Merci Christophe Rousset.
Merci à vous.
Moi, je trouve ça bien de se quitter avec une ouverture. C'était l'ouverture de Bellérophon de Lully, toujours par les talents lyriques de Christophe Rousset. 8h53, on arrive au terme de cette émission. Il est temps de se quitter, de retrouver dans quelques instants Benjamin François pour l'été classique matin de France Musique. Mais comme tous les matins, on finit avec un petit swing ultra énergisant aujourd'hui pour vous montrer qu'il y a aussi dans le swing, dans les années 50, déjà les prémices du rock'n'roll à venir, comme on le sent clairement dans Hand Clapping du saxophoniste Red Priest. Pardon, en 1955. Alors accrochez-vous, ça va très très vite. We'll be right back. avec ça si vous n'êtes pas réveillé et en pleine forme pour la journée. Je ne sais plus quoi faire. Hand clapping de Red Prisock pour refermer cette émission. Ben oui, je vous l'avais dit, c'était très facile aujourd'hui le blind test. C'était la petite musique de nuit de son vrai titre, en fait, le premier mouvement de la sérénade numéro 13 en sol majeur de Mozart. Bravo à nos gagnants du jour, Maxime Végel, Frédéric Luigi, Maxime de Montpellier, Frédéric Luigi de Montagnac, Philippe Lucchesi de Marseille, Alain Saroufim de Nîmes et Ariane Alsen de Saint-Germain-des-Vaux. Tous les cinq, eh bien, vous êtes invités à deux à venir assister au concert du Festival de Radio France à Montpellier le 19 juillet prochain au Quorum de Montpellier. Demain, mon invité sera la jeune flûtiste Mathilde Calderini, avec qui on parlera du Festival Jeunes Talents. Entre autres, merci à toute l'équipe du jour, Laurent Lefrançois qui a réalisé cette émission, préparée par Marjolaine Portier-Kaltenbar et Pierre Tessier, avec aujourd'hui à la technique... son nom m'échappe à l'instant, José Bernès, pardon mon José. José Bernès et Antoine Giraud à la cabine. Dans quelques instants, à 9h, c'est l'été classique du matin avec Benjamin François. Bonjour Benjamin.
Et bonjour Clément, comment ça va?
Mais notre très mal, José. Comment oublier José Bernès? Alors là, je m'en veux terriblement.
Totalement.
Dites-nous,
imprenable.
Au menu d'aujourd'hui.
Au menu, Monteverdi, De Corroy, Perrotin, Jeannequin, Clemens non papa, avec notamment une très belle chanson parisienne intitulée Du beau tétin et son corollaire du lait tétin. Tout un programme.
Très renaissance chez vous.
Totalement.
Ce matin, Benjamin François. Merci beaucoup, à tout à l'heure dans quelques instants. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de France Musique.